Voici la fin de la première journée de retraite. Bon, pour celles qui ont déjà l'habitude des retraites, vous savez sans doute qu'il faut mettre un peu de temps pour rentrer en retraite. Pour les uns, il s'agit d'atterrir, pour d'autres, il s'agit de décoller. Mais ne pas s'inquiéter, donc essayer d'apporter tout simplement sa bonne volonté, sans chauffer la tête, ni le cœur, ni le corps, ni les nerfs. Et puis essayer de prendre les choses un peu comme elles viennent. Si vous avez besoin notamment de repos, il y a certaines grâces qui sont attachées notamment au repos corporel, vous voyez. On est corps et âme, donc il faudra peut-être pour certaines attendre un certain état de repos, des nerfs, des soucis, des choses qu'on a laissées à l'entrée de la retraite, qu'on craint de retrouver à la sortie de la retraite. Bon, vivez la grâce présente. Et je pense que notamment, les offices doivent beaucoup vous aider à cela. Les offices sont très beaux. On ne peut malheureusement pas toujours y participer. J'entendais de dehors ce matin à la messe, de dehors encore les vêpres ce soir, bon, pour diverses raisons. C'est très beau et donc je pense que laissez-vous faire par la grâce de la liturgie. La grâce de la liturgie. Liturgie de la messe, liturgie des offices. Ce soir, je vais parler un peu de Compli. L'office de Compli, déjà qu'a abordé hier soir Monsieur l'abbé Trodec. Ce serait bien de vous dire un mot général sur l'office, sur le tissu de l'office, sur la valeur de l'office, sur la grandeur de l'office. Vous n'avez eu aujourd'hui, pour ceux qui ont pu y participer, que les vêpres et les complis. En principe, dans les monastères, vous le savez, on va 7 ou 8 fois par jour chanter l'office des psaumes, chanter ou réciter chez les capucins surtout, on récite plutôt. Quelquefois on chante, aux joies. Bon. Et donc, savoir que cette prière, et vous, quand nous l'expliquons à nos tertiaires, de Saint François ou d'autres tiers-ordres parfois, eh bien que la prière liturgique de soi a plus de valeur qu'une prière personnelle. De soi, elle a plus de valeur qu'une prière personnelle. Parce que ce n'est pas la prière du petit individu X, Y, Z, c'est la prière comme à la messe, c'est la prière de l'Église, c'est la prière du Christ, du corps mystique. Même, on pourrait dire, selon l'expression de saint Augustin, c'est la prière du Christ total. Christ total, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, au ciel, glorieux, présent au Saint-Sacrement aussi. Et puis, tous les fidèles sur terre, voilà, et même les fidèles qui sont au purgatoire, voilà, les fidèles. Alors, bien sûr que là, pour le chant de l'Office, c'est surtout, eh bien, c'est la voix de l'épouse, dit Don Marmion. Vous pouvez lire d'ailleurs à ce sujet si vous vous intéressez ou si vous voulez rafraîchir votre mémoire. Le Christ dans ses mystères de Don Marmion, c'est vraiment, si on veut avoir des convictions liturgiques, c'est vraiment un livre à lire et à relire et à re-relire. Pour chaque grande période de l'année, il donne la spiritualité du temps de l'année pour Noël, pour l'Épiphanie, pour enfin tout le cycle liturgique. Et c'est important, vous voyez, d'avoir des convictions liturgiques. Et il a cette très belle expression de dire que la messe est le bijou et le joyau enfermé dans un écrin qui est l'office divin. L'office divin qui prépare la messe ou qui la prolonge par l'action de grâce. D'où l'avantage, c'est vrai que la grande prière liturgique, ce serait évidemment d'avoir tout l'office divin, d'être près d'un monastère et d'avoir l'office divin, enfin autant qu'il dépend de nous, de soi. Ou d'avoir au moins, comme disait le bon père Emmanuel, irons-nous, n'irons-nous pas aux vêpres? Il a fait un article comme ça, très intéressant, pour montrer que dans les temps de chrétienté, le fait « n'irons-nous pas aux vêpres » c'était l'exception. Normalement, on allait aux vêpres, c'était vraiment partie intégrale de l'office du dimanche. On voit dans le 19e, du temps du curé d'Ars. Cette conviction liturgique, quoi, c'est se laisser porter par cette prière. Alors, c'est plus évident quand on chante, évidemment, quand il y a du monde, qu'on n'est pas 2-3 à psalmodier l'office. Bon. Mais il y a cette conviction, spécialement s'il y en a parmi vous qui sont tertiaires, de Saint François, de Saint Dominique, qui sont de Saint Pidis ou des oblats de Saint Benoît, je sais, que sais-je. Renouvelez-vous dans cette conviction que l'office divin, la prière de l'Église, prière des intentions du Christ, prière qui dilate notre prière personnelle. Des très beaux articles du Père Calmel, notamment sur oraison liturgique et vie d'oraison. Il montre que l'âme de l'oraison, bon, on en parlera de la prière de l'oraison, c'est les grandes intentions de l'Église, c'est la prière du Christ. Voilà. Alors il y a un échange vital entre les deux, bien sûr. Alors pour Compli, ça tombe bien parce que je ne savais pas ça, j'ai eu à travailler ça d'un peu plus près, je ne connaissais pas, pas de façon aussi précise. En tout cas, l'auteur que j'ai suivi, qui est le père Willy, un rédemptoriste, qui commente le bréviaire. Donc il explique que les complis, l'office de Compli, eh bien, était un office qui a été surajouté à l'office de vêpres. Normalement, au départ, il n'y avait que vêpres dans les communautés. Ad vesperas horas, il n'y avait que vêpres. Et puis, parce que ces vêpres étaient souvent dites avant le repas, et puis qu'il restait encore du temps avant de se coucher, alors les moines ont rajouté des prières, et c'est devenu Compli. Compli qui est beau, d'ailleurs beaucoup plus, voyez-vous, une prière qui est marquée plus par un côté personnel, je dirais. C'est-à-dire, sa beauté de Compli, c'est de... Bien sûr que c'est la prière du Christ, tous les psaumes, vous savez. Je vous donne des petites indications sur les psaumes, pendant que j'y pense. On peut les lire de trois façons, enfin on peut les dire de trois façons, donc en pensant que c'est le Christ, en pensant que c'est l'Église ou en pensant que c'est l'âme. Quand on entend parler le psalmiste, hein, dans les psaumes, quand il parle à première personne ou troisième personne, ou s'adresse à Dieu, donc c'est le psalmiste lui-même, celui qui a composé, David, ou des groupes très proches de David, et puis le Christ, et puis l'Église, et puis l'âme. Et la plupart des psaumes, on peut trouver ces trois sens. Et là, l'intérêt des psaumes de Compli, on va voir, c'est que, eh bien, il y a une espèce de... On voit bien que c'est les besoins de notre âme. On comprend bien que c'est les besoins à la fois du Christ et de notre âme. Voilà le commentaire qu'il donne, qui est très bien. Les complis, dont la forme actuelle remonte à Saint-Benoît, constituent la dernière prière de la journée. Il dit « admirable joyau liturgique ». Comme prière du soir, nous ne trouvons dans aucun collège rien qui lui soit comparable. Alors souvent, on dit « fatigué de répéter les mêmes formules de vos manuels bleus, de vos missels chrétiens ». En principe, le psaume, c'est l'essence du psaume, littéral, mystique, etc. Prière du Saint-Esprit, toujours des profondeurs insoupçonnées. Combien de familles chrétiennes se feraient un bonheur de réciter en commun ? Oh là là, faut rêver. Avant de se livrer au repos, ce délicieux office, si elles le comprenaient. Car son objet est double, on le dit dès le début du Compli, la grâce d'une nuit tranquille et d'une bonne mort. On en parlera demain, puisqu'on parle un petit peu des fins dernières. On demande ça. Double objet qui se compénètre. Il sommeille, image de la mort, et qui peut être aussi l'occasion, évidemment, du passage sans transition de la terre à l'au-delà. Et il inspire les dispositions requises pour faire une sainte mort. Voilà, chose qui ne s'improvise pas au dernier moment. Oui, évidemment, la mort improvisée. Oui. Et l'Église, voyez-vous, ce qui est très beau dans la liturgie, c'est que même quand vous n'êtes pas très conscient de ce que vous dites, elle, l'Église, elle le sait. Elle le sait dans les meilleurs de ses membres, bien sûr, en principe dans les ordres religieux. Enfin, on peut espérer quand on n'est pas trop dans la routine et la distraction. Mais l'Église sait ce que vous balbutiez, ce que vous chantez comme vous pouvez, ce que vous comprenez comme vous pouvez. L'Église, elle le sait. Sujet-là, d'ailleurs, petite chose intéressante, là. Tiré de Marie-Noël. La poétesse de Bourgogne. Ah. Bien qu'ignorante, je ne sais pas plus le latin que ma mère, ma grand-mère et leurs servantes, je suis comme elle si attachée au latin de nos offices que je souffre d'une grande absence quand la version française sécularisée nous en dépouille. Elle écrit ça en 40. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui ? 1940. La débâcle. Comment saurais-je le pourquoi de cette nostalgie spirituelle ? Peut-être y a-t-il dans notre chant liturgique, ce chant liturgique à nous transmis du fond des siècles, par tant de bouches bienheureuses, un don quasi sacramentel. En fait, ce qu'on appellera dans l'Église un sacramental. La différence entre un sacrement et un sacramental, catéchisme, le sacrement de lui-même, porteur de grâce, voilà, la res. la res, la grâce, c'est directement. Tandis que le sacramental, c'est l'Église qui a fixé, qui a donné eh bien, une valeur spéciale. Voilà. Ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas ex opere operato. Ce sacramental va dépendre de, en partie, au moins en grande partie, de la foi de celui qui l'utilise. Partant de bouche bienheureuse, un don quasi sacramentel de l'esprit de Pentecôte qui parlait mystérieusement aux âmes simples par les vocables sacrés qu'on veut nous ôter, en 1940, qu'on veut nous ôter, parce que nous sommes insuffisamment instruits et que nous ne saurions bien les entendre. Oh, bien sûr, nous ne les comprenons pas tous, malgré nos livres de messe, mais nous les laissions passer sur nous comme une coulée de grâce. Les mots maintes fois répétés de Veni Creator, de Miserere, de De Profondis, Magnificat, Te Deum, et tous les autres étaient devenus en nous notre richesse familière, par la magnificence grande ouverte de l'Église catholique, dont la prière séculaire élève à leur insu, et c'est encore mieux quand ce n'est pas à notre insu, et valorise les humbles, mieux que leçons et discours de tout temps, en tout lieu du monde. Voilà. Les intuitions des catholiques et d'une poétesse. Voilà. Voilà. Bon, continuons. Alors, c'est compli. Dès lors, pour entrer plus pleinement dans l'esprit de l'Église et pour mieux assurer nos derniers moments, récitons chaque jour cet office, comme si durant cette nuit, nous devions comparaître devant Jésus-Christ. Non. Je vais devant un Dieu que j'ai aimé toute ma vie. Pourquoi trembler? Il va soudain être plus sévère que d'habitude. Offrons en même temps notre prière au Père Céleste en union avec Jésus agonisant le soir au Jardin des Olives. Pour les pauvres âmes qui cette nuit même entendront du souverain juge leur sentence éternelle. Cette charitable intention, qui est d'autant plus efficace sur le cœur de Dieu, que la prière canoniale, l'office divin, se dit au nom et en union avec toute l'Église. Et elle peut décider du salut de plus d'un agonisant. Saint Alphonse de Ligurie disait qu'il attachait plus d'importance à une seule oraison liturgique ou un morceau d'office qu'à 100 prières privées. C'est fort, hein, plus qu'à 100 prières privées. Et ces heureux élus qui nous devront leur bonheur sans fin ne manqueront pas de nous assister à leur tour par leur intercession à notre dernière agonie. Ah. Tissu essentiel, les psaumes. Est-ce que nous avons suffisamment une grande conviction que c'est poésie sacrée? L'auteur, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même, dans sa sagesse et son amour. Eh bien, saint Éphrem, voilà, lui, il avait bien cette conviction-là, comme voix de l'Église. Ah, ce que dit saint Éphrem, donc le tissu essentiel de tous les offices, les psaumes, on verra après les parties de l'office de compli. Le chant des psaumes met les démons en fuite. Le chant des psaumes met les démons en fuite. C'est une arme dans les terreurs nocturnes et un allègement à nos travaux journaliers. Père Emmanuel dit qu'au fin 19e, début 20e, il y avait encore des paysans qui savaient des parties de l'office. Ils n'avaient pas la radio encore. Et certains, on les entendait chanter. Il dit aussi bien Peggy que le Père Emmanuel. Maintenant, on ne les entend pas chanter. On entend chanter autre chose. Le chant des psaumes est la sauvegarde de l'enfance. Toutes ces mélodies qui pénètrent comme un sacramental, hein, qui pénètrent les âmes de vos enfants, même quand ils sont... Une consolation pour la vieillesse. Ah, intéressant, madame, écoutez bien. Saint Éphrem. Une parure décente pour les femmes. Ah, les psaumes, une parure décente pour les femmes. Ah, c'est beau. Le chant des psaumes embellit une fête. Il remplit aussi l'âme d'une tristesse agréable au Seigneur, une tristesse selon le Seigneur. Car il n'y a pas de pécheur si endurci auquel elle ne finisse par faire arracher des larmes. Le chant des psaumes est la plus douce occupation des anges et des bienheureux. C'est une espèce de parfum spirituel. Il éclaire le cœur. Il l'introduit, pour ainsi dire, au ciel. Il fait admettre les hommes dans l'entretien et dans l'intimité de Dieu. Il réjouit l'âme. Il bannit les conversations inutiles et les rires immodérés. Il nous avertit de leur jugement. Et il réconcilie les pécheurs. Dieu et les anges assistent au milieu de ceux qui chantent les psaumes dans la componction de leur cœur. Au lieu que les chants impies soulèvent la colère de Dieu et que la malédiction devient la récompense des joies charnelles et mondaines. Là où l'on entend la lecture des livres saints, là les justes sont pleins de joie, les enfants de Dieu pleins de célestes espérances et le démon plein de rage et de confusion. dernière généralité avant d'entrer un petit peu dans la composition des complis. Tout l'ensemble des complis exprime le repentir et l'espérance. Comme il est toujours bon, dont souvent c'est une méthode qu'on prend aussi bien en philosophie qu'en théologie, pour faire connaître ou pour faire ressortir la valeur d'une chose, on la compare à une autre. Voilà. Là, on peut comparer, on dit que matine, voyez-vous, les matines, l'office des matines, c'est aussi un office de nuit. Et là, la nuit est plutôt facteur dans les matines, c'est plutôt la paix, le repos, le silence, la contemplation, l'adoration, si vous voulez. Tandis que la nuit, auquel on se prépare par compli, eh bien, il y a un côté plus inquiétant. On demande à Dieu de nous prémunir contre le mal, le péché, la mort. On supplie pour la bonne mort, à l'exemple du Christ. Et le chalut sera achevé, la vie aura été illuminée. Alors voyons un peu maintenant les parties de l'office. Alors sachez-le, de même que pour le chapelet, par exemple, ou toutes les prières vocales, tout ce que nous disons, ou pour la messe, l'esprit humain ne peut pas décortiquer quand il y a la récitation, quand il y a le chant, ne peut pas évidemment analyser comme on le fait. Mais c'est bien de le faire avant, dans les lectures spirituelles, ou le faire après, pour mieux goûter. Mais une fois qu'on a vu que c'était beau, que c'était grand, que c'était riche, même si on ne se souvient pas de tout, eh bien il y a un état d'âme qui fait qu'on se dit « Ah, ce que je fais, c'est grand. Ce que je fais, c'est grand. Les anges sont là. Le Christ est là, en plus, si on récite devant le Saint-Sacrement. » Et alors, dans cet état d'âme, bon Dieu, de temps en temps, donnera, eh bien, sur une parole. Des fois, c'est juste une parole qui nous touche. Ça ne fait rien. Si ça nous touche, bah, c'est bien. On dit ad sensum, ad verba, et puis ad res, enfin, ou ad personas. Bon. Donc, soit au sens matériel, voilà, on peut faire attention au sens matériel. On essaie, là, si on sait à peu près le latin, un petit bout, au moins. Voilà, ou au gloria, comme nous disait le Père Eugène, souvent, au début, quand on arrive, qu'on ne sait pas. On plonge son âme au moment du gloria. Voilà. Dont Marmion, à chaque fois qu'il disait Gloria, il avait pris sa habitude, il demandait la grâce de l'adoption à la filiation divine, de vivre sa vie d'adoption divine. À chaque Gloria, il faisait ça. Voilà, belle âme d'oraison. Voilà. Soit aux paroles, bien les dire, bien bon, le sens des paroles, ou alors les choses que présentent les paroles. Voilà. Et des fois, c'est une seule chose. Voilà. Même des fois, simplement, un acte de présence à Dieu pendant un office, ça peut suffire. En chassant un peu les distractions ou en les repoussant calmement quand elles arrivent. Alors, il y a trois parties dans ces complis. Un préambule, ce qui va précéder les psaumes, si vous voulez, la petite prière là, qui précède, « Iubé Domine Benedicere », jusqu'à « Converte nos et salutaris noster ». Ensuite, les trois psaumes et l'hymne. Bon, ça c'est facile à voir. J'avais pensé à éventuellement vous faire amener, mais je me suis dit, ça va faire un peu court, alors un peu, un court, alors c'est un court quand même. Ça doit supposer quand même vous préparer un peu la prière de tout à l'heure. Et puis la recommandation de l'âme à Dieu, spécialement le capitule, Tua autem in nobis est domine, nomen sanctum tum invocatum est supernos, le petit capitule, le petit chapitre, avec l'oraison, visita quesumus. Et puis on termine l'antienne à la Sainte Vierge. Alors ce préambule. Iubé Domine Benedicere, quand on est tout seul, Iubé Domine, c'est à Dieu qu'on s'adresse. Seigneur, daignez nous bénir. Alors, on commence. Noctem quietam et finem perfectum. Ah, c'est beau ça. Une nuit quiète, une nuit silencieuse. C'est beau, il y a un carme, il dit Noctem quietam, ça le faisait penser à la doctrine de la nuit de Saint-Jean-la-Croix. La nuit de silence. Dieu vient sur terre quand tout se tait de ce qui est de la terre. Voilà. Noctem quietam. Dieu vient sur terre quand tout se tait de ce qui est de la terre. Noctem quietam. Et finem perfectum. Alors on dit, bon, le finem perfectum, souvent on dit c'est la mort. Oui, c'est vrai. Mais finem perfectum, c'est aussi l'accomplissement parfait de la charité, le degré de charité que nous devons atteindre pour aller au ciel. La perfection, on demande la perfection. Alors bien sûr qu'il y a cette fin parfaite qui est une bonne mort. Mais cette mort sera d'autant meilleure qu'on aura un degré de charité plus élevé. Noctem quietam et finem perfectum. Concedat, qu'il nous concède, qu'il nous donne, voilà. Dominus omnipotens. Et alors après, un avertissement. Voilà. Avertissement. Frère, soyez sobre. Sobre. Pas trop bras le soir, pas trop manger. Enfin, juste ce qu'il faut. Pas d'indigestion. Pas de crampes d'estomac non plus. Comme dans la vie de Saint François, un frère qui il hurlait parce qu'il avait des crampes d'estomac. Bon, ce qu'il faut, voilà, pour frère Anne, pour qu'il ne braie pas trop. Sobriestate et vigilate, soyez sobre. La sobriété, vertu de tempérance, tempéré, modéré. Et vigilate, la vigilance de la foi, la vigilance de l'espérance qui attend, la vigilance de l'amour. Ah, l'amour est vigilant. J'aime bien citer cette parole. Je dors, mais mon cœur veille. Eh oui. Je ne dors pas, mais mon cœur ne veille pas non plus. Ah, pas bon. Alors, soyez sobre, éveillés. Parce que quoi ? Adversarius vester diabolus. Le diviseur. Et qui divise diabolus. Tamquam leo rugiens. Un lion qui rugit. Vous savez cette parole de Saint-Augustin. Oui, il peut mordre, mais il peut aboyer, mais il ne peut pas mordre. Sauf celui qui l'approche de trop près. Voilà. Circuit. C'est un circuit. Il tourne autour. Coherence, cherchant. Par où je vais entrer? Quelle est la fissure, là? Quem devoret, ce qui va dévorer. À qui il faut résister? Fortes in fide. Fort dans la foi. Oui. La vigilance, des vertus théologales, voire de la prudence, pour être raisonnable. Et puis, voilà. Fortes in fide, la force qui vient de l'esprit de foi. Tua autem domine miserere nobis. Et c'est beau, vous voyez, vous avez eu aujourd'hui, dans vos instructions, vous voyez, on lui s'est dit, tiens, c'est amusant, dans leur journée, là, il y a un sandwich dans leur journée, là. Alors, il y a la Trinité, les perfections, à la fin, il y a Jésus-Christ, les complices, j'espère. Et au milieu, il y a le péché. Ouais. Pourquoi ? C'est très bien, c'est très psychologique. Parce qu'on ne connaît le péché que si d'abord on le voit dans la lumière du bon Dieu. Ouais, perfection, la Trinité, Jésus, le péché, que dans la grosse tache, là, tache noire sur le beau plan de Dieu. Voilà. Le péché doit pas vous... Enfin, le péché vu tout seul, pas intéressant. Ça crispe l'âme. Non, mais le péché vu du point de vue comme mal du bon Dieu, ah, là, ça devient intéressant. Péché injustice vis-à-vis de Dieu. Voilà. Péché qui gâche la création, qui gâche notre âme. Ah, ça prend de la hauteur, vous voyez. Voilà. Ah, faire des calculs, non. On regarde du point de vue de Dieu. Et ça apaise l'âme. Et alors, bien sûr qu'on voit que le péché est d'autant plus mauvais, mais on le voit du point de vue de Dieu. Avec ses lunettes, comme disait... Faut pas avoir de vue, il disait, Monseigneur, à midi. Vous vous souvenez ? Très bien. Bon. Alors, dans l'office qui est très beau, à chaque fois, on revient vers Dieu, vous voyez ? Le Gloria qui revient, les dominés. Soyez attentifs à ça quand vous récitez les psaumes. Et, alors, souvent, on va traduire les élans de l'âme. Mais attention, pas faire du psychologisme. Qu'est-ce que c'est que ça, mon père ? Psychologisme. Au lieu de regarder l'objet, la personne, on regarde ce qu'on ressent par rapport à l'objet, la personne. Ça, c'est typiquement moderne, ça. En philosophie, en théologie, en tout, comme ça. Les modernes, c'est ça. Qu'est-ce que je sens par rapport à l'objet, hein? Alors, ou à la personne. En philosophie, c'est Scheller et compagnie. Et puis en théologie, qu'est-ce que je ressens? Mon vécu existentiel. Non, Dieu, Dieu. Après, moi, bon, d'accord, se voir en Dieu. Mais d'abord, bon Dieu. Et la liturgie fait ça. Dominer, toujours. Adiutorium nostrum in nomine domini. Qui fecit coelum et terram. C'est lui qui est important. C'est pas nous. Nous, nous devenons importants que dans la lumière de Dieu. Alors ça nous guérit. Individualisme, resserrement sur soi, introversion, introspection, ça dégage. Pas de romantisme, pas de sartrisme, pas d'existentialisme, pas de je sais pas quoi. Pas de gens qui sont toujours assez épluchés à l'intérieur. Dieu. Oh, Dieu. Bon, voilà. Alors après, repentir de nos fautes. Mais après cette vive conscience, on a écouté le bon Dieu. Alors bien sûr, après, confiteor. Confiteor, d'accord, mais remarquez, de omnipotenti. Et remarquez que le confiteor, il est tout petit. Par contre, le de omnipotenti, beate marie. Alors là, il y a toute la série, on fait passer tout le ciel, là. Eh oui, parce que la conscience des êtres qui sont là, c'est bien plus important que votre confiteor. Et votre confiteor sera d'autant plus intense que vous aurez une vive conscience. De omnipotenti, la Vierge, les saints, Saint-Michel, voilà. Ça, c'est le catholicisme, voilà. Confiteur, de omnipotenti. Alors, on récite. Ah, après, mea culpa, voilà, comme le sandwich, je vous dis. Hein. Alors, Dieu, confiteur, un petit bout de confiteur. Après tout, le bon Dieu, la Sainte Vierge, les saints. Hein, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Idée au précor, petit. Bien, et on reprend. Voyez comme l'humain, il a sa place, mais il est tout petit, c'est Dieu qui est important. Voilà. Et après, miséré à tour que Dieu le Tout-Puissant ait pitié de nous, qu'après nous avoir pardonné nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Indulgentiam, absolutionem, remissionem. Eh, très bien. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, nous accorde le pardon, l'absolution, la rémission de tous nos péchés. Voilà. Et après, convertenos, salutarisenos noster. Convertissez-nous, Seigneur. Ah, je vais me convertir, je me suis converti. Non, c'est Dieu qui convertit. Convertenos, tournez-vous vers nous. Voilà. Et déternez de nous votre colère. Alors après les psaumes. Ah, les psaumes. Alors, le psaume central, le plus intéressant, c'est 90. Ah, il faudrait que vous lisiez le beau commentaire de... J'ai pas pris, je l'ai pas emmené, puis j'ai pas voulu trop me plonger dedans parce que ça aurait été trop long. Mais le beau commentaire de Don Marmion sur le psaume 90, c'est dans le carême. Ça doit être le Christ dans ses mystères ou le Christ vit l'âme, je sais plus, je me souviens plus bien. Mais il commente le psaume 90. Il dit c'est le psaume du carême, le psaume du combat et le psaume de la confiance. Alors que c'est au cœur, c'est le plus important psaume de Compli. L'autre nous introduit. 4, c'est important, si on va voir. Mais c'est 90 qui est important. Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione circum orabitur. Celui qui s'abrite dans le sein du Très-Haut demeurera sous la protection du ciel. Et dire au Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dira ? Mon Dieu, vous êtes mon défenseur, mon refuge, mon Dieu, en qui je mets toute ma confiance. Oui. Dieu, c'est Dieu qui fait sortir du cœur humain les sentiments religieux. C'est Dieu. Voilà. Car c'est vous qui me délivrerez des filets des chasseurs et des paroles méchantes. Oui, il te couvrira de ses ailes. Et sous ses ailes, tu trouveras un abri sûr. Oh. Mon père, vous n'avez pas une petite prière à m'indiquer pour avoir confiance ? Qu'est-ce que vous avez là ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! Sa fidélité te couvre comme d'un bouclier. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit. Ah, les angoisses. La retraite va-t-elle bien se passer ? Qu'est-ce qui va se passer à la sortie de la retraite ? Et demain ? Et après-demain ? Non, ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole pendant le jour. Tchut. Hein ? Les tristesses, les pensées, là. La... Ouais, Dieu, il est là, mais Dédé, il est par là aussi, hein. Kirkwin, quand même, comme des vorettes, là. Un petit coup de dent, un petit coup de patte, un petit coup. Ouais. Fait son travail. Faisons le nôtre avec les anges, les saints. Il est là, il se balade aussi. Ouais. Je restitue. Je vous expliquerai ça, si on a le temps. Je restitue, oui, oui. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Oh, quelle promesse de Dieu! De tes yeux, tu regarderas et tu verras quel sera le salaire des méchants. Ah, parce que tu as dit, pourquoi, pour cette seule petite parole, Seigneur, vous êtes mon refuge. On comprend les pères du désert, ils prenaient un petit bout de psaume, l'Evangelium in nuce, l'évangile dans une coque de noix, et ils le redisaient. Alors c'était souvent le Deus in adiutorium meum intende. Mais n'importe quelle parole des psaumes, c'est de la nourriture divine et c'est efficace contre le démon. Une seule parole de psaume, petit verset. Parce que tu as dit, vous êtes mon refuge et que tu as choisi. Hein, alors, question en latin. Altissimum posuisti refugium tuum. Tu as posé ton refuge dans le Très-Haut. Le mal ne viendra pas jusqu'à toi. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il commandera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et les saints nous disent ça. Le bon Dieu, on est la prunelle de ses yeux. S'il y a un élu qui a un problème dans tout l'univers, ça l'intéresse plus que tout. À dépêcher ses anges, ses saints, pour cet élu-là qui a prié, pour un pauvre qui a prié, un simple qui a prié. Parce que bon Dieu nous aime. Ah, oui, beau ça. Il commandera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Vous reconnaissez cette parole aussi qui a été un peu tronquée, là. Le démon qui circuit que Hans Gemdoret, Iesum Christum, hein, in deserto. Les tentations, trois tentations au désert. Il y avait cette parole-là. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur l'aspic et le basilic et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon. Ah, la Sainte Vierge, oui. Puisqu'il a mis en moi sa confiance, je le délivrerai. Ah, intéressant ça. Puisqu'il a mis en moi sa confiance, je le délivrerai. Puisqu'elle a mis en moi sa confiance, je la délivrerai. Je la protégerai puisqu'elle connaît mon nom. Pour vous, mesdames. Pour les âmes. Il criera vers moi, je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la tribulation, je l'en délivrerai, je le glorifierai, je le comblerai. Oui, les gradations. Je lui ferai voir mon salut. Alors bien sûr, ça s'adresse par excellence à notre Seigneur. Mais je vous ai dit, Christ total, notre Seigneur comme chef et tête de tout son corps mystique. Donc chaque âme, C'est pour chaque âme, ces choses-là. Hein, c'est pas pour les religieux, les prêtres, les contemplatifs qui sont dans les astres. C'est pour nous. Pour vous. Ah. Alors, 90. À lire et relire. Dit que c'est le psaume du carême. Vous voyez que l'Église veut qu'on ait, chaque dimanche, qu'on réveille en nous l'esprit du carême. Esprit de confiance, esprit de don à Dieu. Hein, et d'abandon. Le psaume 4, lui, c'est plutôt un certain détachement, repentir et confiance. Voilà, du détachement, du repentir à la confiance. On pense au sens littéral, parce que c'est un chant du soir de David. Il invite ses ennemis à rentrer en eux-mêmes et il leur déclare que malgré leur machination, il prendra un tranquille repos dans la paix de Dieu. Voilà. Raconte ça un petit garçon, là. Fils d'un amiral sur un bateau. La tempête, l'orage, etc. Les marins affolés, etc. Le petit est très tranquille. Tu n'as pas peur ? Non ? C'est papa qui dirige le bateau. Ah, que c'est beau. Et qui c'est qui dirige l'univers ? Qui c'est qui tient tout dans sa main ? C'est le bon Dieu. Voilà. Même les impies, avec leur grimace, leur persécution, etc. C'est Dieu qui tient tout dans sa main. Je me souviens encore, un jour, notre père supérieur parlait avec le père Innocent Marie. C'est le père d'Avrilé, père supérieur. Je vous en parlerai dans la crise, à la fin de l'appartenance à l'Église catholique. Au sujet, justement, de que c'est bon Dieu qui dirige tout. Jusqu'à quand, la père Antoine ? Comment ça va durer un peu, alors ? Et dans la société, et dès l'Église, hein, et surtout dans l'Église. Jusqu'à quand ? Et le père, il a... Je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, il avait dans son tiroir un sifflet de police. Bien à un moment, le bon Dieu dira « Stop, ça suffit !» On arrête les jeux. Quand il voudra, comme il voudra, le bon Dieu. Voilà. C'est lui qui dirige tout. Pourtant, ça, les psaumes, il y a constamment cette leçon-là. Constamment, constamment, constamment. Que ce soit pour les personnes, pour les familles, pour les individus, pour les sociétés, pour les individus, pour les intentions particulières, spéciales, générales. Quand je l'invoque, il m'exauce, le Dieu qui est juste. Voilà. Quand je l'invoque, il m'exauce. Cum invocarem exaudivit me, Deus justitiae mei. Dans la tribulation, il dilate mon cœur. Dilatasti. J'aimais bien. C'est qui c'est ? L'abbé Le Carreux. C'est l'abbé Le Carreux ? Non, c'est le père Éloi, au début de nos retraites. Où est-ce qu'il est, le démon, à part Tchirkwit ? Il est là. Il vous appuie là pour vous empêcher de respirer. Alors, le bon Dieu, dilatasti. Ah, on respire avec Dieu. Voilà. Ayez pitié de moi et exaucez ma prière, fils des hommes. Jusqu'à quand aurez-vous le cœur appesanti ? Pourquoi aimez-vous la vanité et recherchez-vous le mensonge ? Qui peut rien nous apporter ? La vanité, le vide, voilà, du rien, du vent. Voilà. Sachez que Dieu a élu son serviteur fidèle et qu'il m'exauce quand je crie vers lui. C'est qui dit ça ? Le Christ ! Sachez que Dieu a élu son serviteur fidèle, notre Seigneur, et tous ceux qui sont fidèles à sa suite, et qu'il m'exauce quand je crie vers lui. Tremblez et ne péchez plus. Irashimini, bon, tremblez, il y a différentes traductions. Et ne péchez plus. Bon, réfléchissez à votre péché en présence de Dieu. Repassez avec componction sur votre couche les pensées de votre cœur. Componction. Compunction, une douce et filiale contrition. Offrez des sacrifices de justice, puis ayez confiance dans le Seigneur. Ah, très bien pour la retraite. Offrez, vous avez entendu ? Offrez des sacrifices de justice, puis ayez confiance au Seigneur. On offre ses prières, on offre sa bonne volonté, puis on a confiance dans le Seigneur. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur ? Ah, encore là, c'est bien la retraite. Il dit ça, mon Seigneur. En quoi tu nous as aimés ? Le blasphémateur inconscient, gros gras, dans son âme. Il est entouré, nous sommes entourés de la bonté de Dieu. Voilà. Il nous pénètre. Faites seulement briller sur nous la lumière de votre face. On trouve ça au début d'un opuscule de saint Thomas. Signatum est supernos lumen vultus tui. Faites seulement briller sur nous la lumière de votre face. Désir du ciel. Alors vous aurez mis la joie dans notre cœur. Voilà. Une joie plus grande qu'il n'en trouve dans l'abondance du froment, du vin et de l'huile et de l'argent et de je ne sais pas quoi. Voilà, froment, vin et huile, des modernes. Pour moi, je me coucherai en paix et je m'endormirai aussitôt. car vous seul, Seigneur, vous me faites reposer en sécurité. Et le troisième, on va terminer là-dessus, et Chénonc. Alors ça, c'est le troisième psaume, c'est, on dit, c'est pour les moines. Voilà. Maintenant, bénissez le Seigneur, vous tous, ses serviteurs. Levez-vous à l'heure pour matine ou le matin, voilà, et demeurez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison. Durant la nuit, élevez vos mains dans le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que de Sion, le Seigneur vous bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Après ces belles hymnes. Avant que disparaisse la lumière du jour, ô Créateur du monde, Rerum Creator, Pochimus, nous demandons, dans votre clémence coutumière, Sis Presul, Sis Custodia, soyez notre protecteur, soyez notre gardien. Ah, je connais un prêtre, il m'a dit ça. Il aime tellement le deuxième verset, le deuxième strophe là, de cet hymne, Procul Recedant Somnia, il s'en sert quand il a des tentations la nuit avant de s'endormir. Procul Recedant Somnia, Procul, comme c'est un exorcisme, c'est une parole d'exorcisme. Procul, va des rétro Satanas. Procul Recedant Somnia, Procul Noxium Fantasmata, loin, allez, du vent, du balai. Ostem que nous sommes comprimés, comprime notre ennemi, là, compresse-le, là, tord-lui le cou. Nepoluantur corpora. Eh oui. Et après, vous êtes en nous, Seigneur, et votre saint nom a été invoqué sur nous. Dès lors, ne nous abandonnez pas, ô Seigneur notre Dieu. Eh, vous avez prié toute la journée. Qu'est-ce que ça fait? Vous n'avez pas me laisser. Entre vos mains, je remets mon esprit. Hein, on parle, on pense à notre Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, comme la prunelle de votre œil. La prunelle, petite prune, qui est là. Hein, avec, il y a des cils là pour protéger. Et puis de l'eau, c'est très délicat ça. Prunelle. Protégez-nous à l'ombre de vos ailes. Alors après, le nom d'Imitis. C'est maintenant, Seigneur, que vous laissez partir en paix votre serviteur, selon votre promesse, car mes yeux ont vu votre salut. Vous n'avez pas vu le salut aujourd'hui? La messe, les prières, vous avez communié, les beaux offices. Ah, voilà. Laissez votre serviteur. Vous avez dessiné devant tous les peuples la lumière éclairant les nations. Il y a beaucoup cette lumière, il y a beaucoup de l'image de la lumière dans la liturgie. Salvanos, sauvez-nous, Seigneur, durant nos veilles, gardez-nous durant le sommeil. Et alors, on termine la prière. Visitez cette maison, repoussez loin d'elle les embûches de l'ennemi. Que vos saints anges y habitent, qu'ils nous y gardent. Alors, on dit le Père Lamy, qui avait des apparitions des anges, là, à la Courneuve, il disait, les anges sont la consolation du soir. Priez les anges le soir, ils sont là. Voilà, ils sont là, votre ange gardien, hein. Il n'est pas en chômage. Hein. Il ne dort pas. Non, non, lui, il ne dort pas, il est près de vous. Notre jumeau, là, il est à côté de nous. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, allez, bénisse. Le Père, le Fils, Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on se remet dans la Sainte Vierge. Voilà. On a peut-être été distrait. Hein, on se rattrape avec le trapèze. Voilà. Salve Regina. Voilà. On était distrait. Bon. C'est bien parce que pendant la fiste, on peut toujours se rattraper à quelque chose. Quand on est parti un peu loin, on se rattrape à quelque chose. Toujours une formule, quelque chose qui peut nous rattraper. Voilà. Et on termine alors. Donc, souvent le Salve Regina. Oui. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Vers vous, nous crions. Alors, ce qui est très beau, les hymnes liturgiques, c'est visible à l'office romain, c'est encore plus beau dans les complies dominicaines. Ah, c'est beau, ces complies dominicaines. Ah, c'est beau. Que c'est beau. Eh bien, quand il y a le suspiramus, d'abord, la mélodie, on sent que c'est un suspiramus, mais on sent, on entend les respirations des religieux dans suspiramus. Ah, c'est beau, ça. Le corps qui s'unit à l'âme, et puis qui fait monter tout ça vers Dieu. Suspiramus, gementes et flentes. Oh. Il n'y a que lacrymarum vallée. Bon. En hiver, on entend. Bon, peut-être. Mais non, en attendant, je dis ça pour taquiner. Ergo advocata nostra. Regardez, vos yeux miséricordieux vers nous. Et Jésus, le fruit béni de vos entrailles, montrez-nous le après l'exil. Ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Alors après, souvent, on doit terminer par une prière qui est assez souvent dans les offices. Donc c'était le Sacro Sancte et Individue Trinitati. C'était une prière à la très sainte Trinité, à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, à la virginité féconde de Marie et à toute la communion des saints. Voilà. Beata Vichira Marie Virginis, que porta verunt eterni pastris filium. Bienheureuses les entrailles qui ont porté le Fils du Père éternel. Voilà. Et bienheureux, donc, celui qui a sucé les mamelles de votre... Voilà, le lait de la Sainte Vierge. On termine là-dessus. Alors, on dit ça en prière privée. C'est très beau. Alors, allons avec conviction à cet office, voyez, hein, qu'on puisse y participer ou pas y participer. Il m'a fait une taquinerie, le père, monsieur l'abbé Troidec, parce qu'il sait que le plus souvent, moi, je ne peux pas aller au compli. Souvent, j'ai de l'office à dire le soir. Alors, il m'a donné cet office, cette occupation. Je suis peut-être obligé d'y aller. Ah, ah, je suis pris au piège. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Bon, je vais voir. Je serai caché derrière un pilier. Bon, non, mais donc, allons avec conviction à ces offices. Vous voyez, le peu d'offices que vous aurez, les complis ou d'autres chants, ou la belle messe demain de première messe de monsieur l'abbé. On s'arrête ici. Chers amis, chères retraitantes, un très beau sujet. Très beau parce que c'est un sujet qui est chargé de beaucoup d'amour et de beaucoup de souffrance. Et donc les sujets, les réalités divines qui sont chargées d'amour et de souffrance, comme la vie de notre Seigneur, la mort de notre Seigneur, la crucifixion de notre Seigneur, sont des sujets qui font un peu trembler. Parce qu'on a peur de dire des choses trop fortes ou mal. Et certainement que le sacrement de mariage dont je vous parlais ce matin est un de ces sujets très chargé de vie divine, très chargé de souffrance et de douleur. Le bon Dieu a voulu que toute l'histoire sainte de l'Ancien Testament soit évoquée dans l'Écriture sainte comme un mariage de Dieu avec son peuple. Lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, dans bien des livres, des prophètes, il parle à son peuple comme d'une épouse. C'est très beau de lire ces passages. Tu épouses un peuple, épouses une famille, la famille de ces créatures qui sortent de son cœur. Lorsque notre Seigneur commence son ministère public, il le fait à travers les noces de Cana, le mariage, un festin, une fête. Lorsque notre Seigneur aussi parle, ou la Sainte Écriture, les pères de la vie céleste, un festin nuptial. On peut dire que cette réalité est omniprésente dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et lorsque des maîtres spirituels et des saints se penchent sur notre baptême, ils l'appellent aussi un mariage de l'âme avec Dieu. Comme l'incarnation elle-même a été un mariage de notre Seigneur, une union nuptiale. D'abord avec son âme et son corps, et puis ensuite, parce que c'est l'incarnation rédemptrice, un mariage, eh bien, avec l'humanité. L'humanité dans son ensemble, ce sera l'Église dont nous parlerons ce soir, mais aussi un mariage avec chacune de nos âmes. Depuis que nous sommes baptisés, chers amis, nous sommes dans l'appel à l'union nuptiale avec le bon Dieu, l'union de notre âme avec Dieu. Et tous les actes de la vie chrétienne, la prière, les sacrements, toute cette vie d'échange avec Dieu est une communion, on pourrait dire une communion nuptiale avec le bon Dieu, dans lequel, eh bien, le premier engagement, qui remarquait d'abord l'engagement de Dieu, Dieu qui se donne, Dieu qui aime en premier, doit se conclure au terme, eh bien, par le don total de l'âme. Et pour cela, le bon Dieu, eh bien, met dans nos âmes des capacités d'amour.
des capacités à être aimé, à se savoir aimer, éventuellement à se sentir aimé, et une capacité, une fois qu'on a pris conscience dans la sagesse, dans l'attention aimante que nous sommes aimés, savoir que nous sommes aimés, sentir que nous sommes aimés, vous avez un grand appétit, un immense appétit de répondre à cet amour, de faire notre retour d'amour. Saint Augustin, et bien d'autres saints avec lui, et bien des maîtres spirituels nous disent que le tout de la vie humaine, le tout de la vie chrétienne, a fortiori le tout de la vie religieuse ou sacerdotale, c'est d'être aimé, de se connaître aimé, de se savoir aimé, de se vouloir aimé, de vouloir cet amour que Dieu a sur nous, qui fait que nous sommes totalement débiteurs et lui totalement créancier. Nous n'avons rien fait pour être aimés en premier, rien, absolument rien. Pourquoi Dieu nous aime ? Parce qu'il nous aime. Nous aime-t-il parce que nous sommes bons ou parce que nous sommes ? Non. Il nous fait être, il nous fait être bons, il nous fait être meilleurs, il nous fait aimables et il nous rendra aimables. Nous autres, nous aimons parce que nous trouvons quelque chose d'aimable ou de désirable dans les autres ou en Dieu. Pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Sa bonté, dès une saine philosophie et théologie, est causative. Elle cause, elle est la première cause totale de notre être, de notre connaître, de notre agir, de ses capacités d'amour que lui-même a créées. Et pour cela, chers amis, chères retraitantes, il faut donner une petite précision. Dieu nous aime tous infiniment, comme si nous étions son unique enfant. Sous la belle parole du poète qu'il faut encore plus appliquer à l'âme, que l'on applique aux mères. Saint François de Sales qui disait « Dieu est un père qui nous aime maternellement. » Dieu nous aime donc comme une mère. Son amour nous aime tout entier, chacun. Voilà. Elle aime tout, tout entier. Et chacun comme si, eh bien, nous étions aimés uniquement. Chacun l'a pour soi et tous l'ont tout entier. Quelle belle intuition du poète. Chacun l'a pour soi et tous l'ont tout entier. C'est vrai de la mère et ô combien plus du bon Dieu. Chacun l'a pour soi et tous l'ont tout entier. Et cependant, parce que nous avons un corps, un psychisme animal, nos capacités d'amour ne sont pas les mêmes, ne sont pas strictement les mêmes, ne sont pas identiquement les mêmes, suivant qu'on est un homme ou une femme. Un être masculin est appelé à aimer Dieu. Un être féminin est appelé à aimer Dieu. Et pourtant, par les conditionnements du corps et du psychisme, par la vocation même de l'homme et de la femme, c'est la femme qui portera le fruit d'amour, qui est destinée à cela. Je ne parle même pas, chers amis, vous pensez fruit d'amour, vous allez penser d'abord, bien sûr, au fruit d'amour physique qu'ont les mères. Je ne parlerai pas d'abord de cela pour la femme. Selon une très belle intuition du père Kolb et de plusieurs auteurs du XXe siècle, dont un grand théologien, le père Scheben, la femme est l'icône du Saint-Esprit. Elle porte le fruit d'amour. Elle représente dans un foyer la capacité d'amour. Indépendamment du fait qu'elle sera mère physiquement ou qu'elle ne le sera pas. Très important, chers amis. Très important. Très important pour accepter nos vocations d'amour. Vocation au mariage qui peut sembler le premier instinct de la nature, même non blessée. Vocation à une vie directement consacrée. Vocation qui se cherche entre une vocation au mariage et une vocation consacrée. Et qu'elle cherche cette âme entre la vocation matrimoniale et la vocation consacrée. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche le fruit d'amour qui habite Dieu. Quel que soit votre état, quel que soit l'état que le bon Dieu a prévu pour vous, chères mesdames, vous êtes éminemment destinées à porter un fruit d'amour. L'homme n'a-t-il pas cette fonction ? Il l'a. Il va créer un cadre qui lui a été donné dès la Genèse pour dominer la terre, pour que cette terre soit une terre d'amour. Et pour que la terre soit une terre d'amour, il faut de la sagesse. Il faut de l'intelligence. Il faut de la raison. Il faut une participation à l'esprit du Créateur, une certaine autorité de l'intelligence et de la volonté du cœur, une certaine participation de la volonté, de l'autorité de Dieu, pour être un peu Père, un peu Créateur, un peu Rédempteur, un peu Sanctificateur à sa place. L'homme va assez souvent des raisons d'aimer à l'amour, c'est sa sagesse à lui. La femme va de l'amour aux raisons d'aimer. C'est plus franciscain, je le signale au passage. Nous aimons, et parce que nous aimons, nous cherchons à connaître cet objet d'amour. Nous pouvons aussi réfléchir, penser. Et en réfléchissant, en pensant, voyez cette beauté, cette grandeur, cette bonté de la vérité, déclencher l'amour. Et généralement, nous prêtres, on nous reproche, des religieuses, des mères, vous séminaristes, vous frères de la fraternité, on nous reproche aux hommes très souvent d'aimer plus avec notre tête qu'avec notre cœur. C'est comme ça, nous sommes faits un peu comme ça. Nous avons besoin de donner des raisons à notre amour. C'est très beau de voir cela dans l'amour qu'avait le Père Kolb pour la Sainte Vierge. Quelle volonté il a eu de fonder en sagesse spirituelle, en théologie, en philosophie, son amour pour Dieu et pour Marie, sa contemplation du mystère de l'Immaculée Conception. Donc, mesdames, quel que soit l'état où vous êtes, jeune fille pas encore mariée, jeune épouse, moins jeune épouse, plus jeune épouse, mère, grand-mère, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Ne vous trompez pas de finalité ni des moyens absolument nécessaires liés à cette finalité. Ayez toujours l'œil, le regard, surtout celui du cœur, fixé sur votre vocation fondamentale. Un bon père dominicain me disait, lorsque nous prêchions ensemble il y a 10-15 ans, des retraites de chrétienté avec les pères dominicains, « Vous savez, mon père, hein ?» Il ne m'appelait pas mon père. « Petit père, en me tirant la barbe. » Pour l'amour, les dames, elles nous mangent la soupe sur la tête. Toujours des formules amusantes, ce père, ce bon petit père. Et c'est vrai, vous avez cette vocation, mesdames. Et au jour de votre naissance, au jour spécialement de votre naissance surnaturelle, Dieu vous a donné une capacité d'amour à aimer notre Seigneur d'une façon très intense. Lorsque le père Rossini, un grand théologien marial, examine le nombre des mystiques que Dieu a donné à l'Église, des vrais mystiques, pas des mystiques au dingo ou dingotes, Le nombre des femmes est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Alors gardez toujours cette direction, mesdames, toujours. Et j'ajouterai quelque chose qui est important pour vous, pour nous aussi, être masculin, pour hommes. Vous êtes les gardiennes jusqu'à votre mort. Ouvrez bien vos oreilles et votre cœur. Vous êtes les gardiennes jusqu'à votre mort de l'amour virginal. Même et surtout si vous êtes mariés. Car la virginité n'habite pas d'abord le corps. Elle habite le cœur. Ce que l'Église nous fait vénérer en Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui, la virginité de cœur que l'on peut toujours recouvrer, à tel point que des âmes qui étaient des grandes pécheresses, par la virginité de leur amour, le bon Dieu a donné un signe dans leur corps. On a plusieurs exemples dans l'histoire de l'Église, dans la géographie. Des corps incorrompus. Des hommes et des femmes qui ont péché dans leur corps par l'impureté du corps, du cœur, de l'esprit, de l'âme. Mais par la virginité du cœur, elles ont recouvré leur pureté, à tel point que Sainte Marie-Madeleine, vous le savez, est rangée d'après plusieurs saints dans le cœur des vierges. Mesdames, vous avez reçu en partage la virginité de l'amour, gardez-la. Gardez-la dans le mariage. Gardez-la sans le mariage. Pas forcément en étant consacré. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames, si vous mettez toujours la boussole sur le nord magnétique qui est l'amour virginal de Dieu, cet amour que l'on reçoit, cet amour dont on est conscient, on se sait, on se sent aimé, même s'il n'y a pas de présence physique ni de médiation que peut-être l'époux, le compagnon. Mettez le cap sur l'amour virginal. Vous ne vous tromperez jamais. Amour virginal qui est toujours prêt à donner, qui est généreux. La femme est généreuse. Jusque parfois dans des états blessés ou des états non chrétiens, la femme est généreuse. La femme a une humilité de fond par sa faiblesse parfois physique, sa sensibilité, sa capacité à porter un autre être en elle. La femme est extrêmement douée, une capacité d'amour extraordinaire. Vous êtes nos modèles, chère mère. Mais pas seulement chère mère, jeune fille qui cherchait à être vierge dans votre cœur d'abord, dans votre corps aussi, je l'espère, dans votre esprit, dans votre âme. Quelle leçon vous nous donnez? À quelle leçon vous nous entraînez? À quels exemples? Et nous avons besoin de votre virginité. Nous en avons besoin, celle du cœur d'abord, je répète. Pour celles qui pourraient se dire, je suis moi blessée peut-être dans mon corps ou dans mon cœur, naturel ou surnaturel, vous êtes encore et toujours les gardiennes de l'amour virginal, prêts à se donner, prêts à être généreuses, pleins de réceptivité pour les dons de Dieu, de ce Père qui engendre virginalement son Fils. Et qui à eux deux engendre ce fruit d'amour, dont procède ce fruit d'amour qu'est le Saint-Esprit. Vous êtes les gardiennes de cela, chères mesdames. Après ça, tout le reste, ce sont des conséquences nécessaires de ce que vous aurez à être dans le mariage, de ce que vous aurez à faire pour votre époux, pour vos enfants, si vous y êtes déjà ou si vous continuez à l'être. Soyez les gardiennes de l'amour virginal, généreux, prêts à la fécondité qui vient de Dieu, la première fécondité qui est la fécondité spirituelle. Et c'est vrai qu'une femme s'accomplit davantage, d'autant plus qu'elle est proche, c'est vrai, du don aux enfants, quand on est peut-être enseignante, ou infirmière, ou que sais-je. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, sans doute, On t'a exercé un métier plutôt par « faut bien gagner sa croûte, mon père ». Mais même là où vous êtes, vous apportez quelque chose que n'apporte pas l'homme. Un père jésuite nous disait, écrivait, si le monde était peuplé que d'hommes, le monde ressemblerait à une caserne. Ou un atelier de bricolage. Ou un garage de voitures. Un monde immensément technicien, efficace, soi-disant viril et masculin. Pff, bêtise. Plus il devient viril sans Dieu et plus il devient impur et orgueilleux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas rencontré l'amour rédempteur de Dieu, de la Vierge Marie, ou d'une femme qui soit pleine d'amour virginal, pleine de capacité au don, pour apprivoiser ce lion d'orgueil et cet ours d'impureté qui habite l'être masculin, que nous avons tous en nous, même nous prêtres, une bête tapie au fond de notre cœur, toujours prête à manger les dons de Dieu, parce que nous sommes pleins d'impureté et d'orgueil, et que Dieu, heureusement, nous aime plus que tout cela. Mesdames, mesdemoiselles, soyez les gardiennes de l'amour virginal. Dieu vous fera mère, d'abord des âmes, d'abord et avant tout des âmes, peut-être des âmes de vos propres enfants ou de vos propres écoliers, peut-être. Ou peut-être d'âmes que vous n'aurez jamais vues, que vous ne verrez qu'à l'heure de votre mort, toutes ces âmes que vous aurez sauvées parce que vous aurez cru à l'amour de Dieu, que vous êtes aimées et que vous pouvez faire votre retour d'amour. Alors après, tout ce qu'on pourra dire dans le mariage, qu'a si bien dit le père Benoît dans son petit opuscule de Marchons droit, la formation chrétienne d'un foyer stable et uni. Vous goûterez la joie et la paix. Je vous dis ce qu'il met en résumé, très résumé. Dieu nous crée dans une pensée d'amour, d'amour personnel. Une pensée d'amour qui est spécialement le Saint-Esprit, qui est lui l'amour personnel de Dieu. Afin de nous introduire dans l'intimité de la Sainte Trinité comme des enfants adoptifs. Nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Notre séjour sur terre n'est que le moyen pratique d'accepter cet amour, de l'accepter. Est-ce que nous acceptons l'amour de Dieu ? Est-ce que vous acceptez d'être aimé de Dieu ? Est-ce que vous savez aimer de Dieu ? Est-ce que vous aimez vous-même parce que Dieu vous aime ? D'accepter cet amour de Dieu et ensuite d'en faire le retour. Par conséquent, tout le fondement de notre vie chrétienne repose sur ce fait fondamental. Être aimé, se savoir aimé, au besoin se sentir aimé, et ensuite faire son retour d'amour. C'est vrai que Dieu, pour pouvoir faire germer cet amour trinitaire en nos âmes, a formé les familles de la terre, corps et âme, comme une icône de la très sainte Trinité. Afin, premièrement, de procréer de futurs saints. Procréer peut-être par la génération physique, mais beaucoup plus par la génération morale et spirituelle qu'est l'éducation. Pour procréer de futurs saints et les éduquer à cet amour filial. Les éduquer à cet amour filial. Deuxièmement, pour sanctifier les époux. Il tire la conséquence et il développe tout son petit traité selon cela. La famille, puisant sa source dans l'amour trinitaire, trouvera le bonheur. La vie trouvera sa préservation, ce service de vie dont vous a parlé M. l'abbé Laurençon hier soir. Sa croissance et son épanouissement, pour que le foyer soit et demeure stable et uni, il sera nécessaire que les époux se donnent l'aide, ou mieux encore, le perfectionnement mutuel. Puiser dans l'amour virginal, je répète, Les moyens concrets pour acquérir et maintenir le principe d'être aimé et d'aimer se résument dans quoi ? La joie de vivre. La joie de vivre. De vivre d'abord pour Dieu, de vivre d'abord pour engendrer des âmes ou des corps, ou les deux à la fois. Si vous mettez cette aiguille sur le nord magnétique qu'est l'amour de Dieu, de vous savoir et sentir aimé, et de faire votre retour d'amour, vous ne manquerez jamais, jamais votre vie. Jamais. Impossible. Et j'ajouterai même plus. Comme on dit quand on fait du tir à l'arc ou de la carabine, vous ferez mouche à tout coup. Quand on vise l'amour total de Dieu, quand on sait cet amour total dont nous sommes aimés et qu'on ne peut faire notre retour d'amour que par cet amour lui-même, tout est gagné. La sanctification personnelle, la sanctification de l'époux, la sanctification des enfants, la sanctification de la famille, la sanctification de la société, la sanctification de l'Église, tout est gagné, tout, tout, parce que nous sommes du côté de Dieu. Nous avons la sagesse même de Dieu, et qui est une sagesse d'abord essentiellement une sagesse d'amour, qui sait la fin, qui connaît les moyens, qui sait comment on rapproche la fin et les moyens. Demandons ça à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, à Sainte Marie-Madeleine. Demandons cela pour nous tous. Vous, chère jeune fille, vous, mère, vous, grand-mère, et plus encore, et nous, prêtres, et nous, séminaristes, et nous, frères. Demandons cela, vivons pour ça, sacrifions-nous pour ça, mourons pour ça, et c'est déjà le ciel sur la terre. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.